l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est la tradition au Royaume-Uni. Ce sont les adhérents du parti majoritaire qui nomment leur chef, qui devient ensuite Premier ministre. Conséquence, le successeur de Theresa May, Boris Johnson ou Jeremy Hunt, sera choisi la semaine prochaine uniquement par les adhérents du Parti conservateur, soit 0,25% de la population britannique. Et parmi eux, il y a des étrangers, c'est autorisé, et notamment deux Français rencontrés par Marie Billon.
Être britannique n'est pas une condition pour adhérer à un parti politique au Royaume-Uni. Tout le monde peut obtenir sa carte de membre si la cotisation nécessaire est payée. Florian, 32 ans, est arrivé en Angleterre il y a 13 ans. Il a immédiatement décidé de s'engager.
Je suis arrivé au Royaume-Uni, vous savez, j'avais 18 ans. C'était pour les études, mais je voyais ça également un peu comme un aller simple. Donc j'ai pris une décision à cette époque-là. Je m'enracine au Royaume-Uni, ça va devenir mon pays, ça deviendra ma culture. Donc pour moi, c'est... de ne pas pouvoir voter aux élections générales parce que je ne suis pas citoyen britannique, dans un sens, c'est normal. Parce que la citoyenneté britannique, comme toutes les citoyennetés, c'est une citoyenneté qui se mérite, à mes yeux. Je n'ai pas encore fait ma demande de naturalisation pour des raisons diverses. Maintenant, de pouvoir décider de qui potentiellement sera le Premier ministre, oui, c'est un pouvoir, effectivement, que j'ai. Et que je choisirais ou non d'utiliser.
Car Florian envisage de ne pas voter ou de voter blanc. Il n'est satisfait d'aucun des deux candidats, Boris Johnson et Jeremy Hunt. Notamment, mais pas seulement, dit-il, car il est opposé au Brexit. Il assure qu'il ne prend pas à la légère ce pouvoir accordé à un si petit nombre de décider du prochain Premier ministre, mais il ne trouve pas sa voix illégitime, même si lui-même n'est pas britannique.
Dans un sens, je trouve ça parfaitement normal. J'ai rejoint le parti conservateur, je me suis engagé dans le parti, j'ai donné beaucoup de temps au parti. À mes yeux, mon engagement dans le parti fait que j'ai effectivement le droit de décider de qui sera le prochain chef du parti, comme mes autres collègues de mon association locale.
Fabien, 42 ans, pense la même chose. Lui a adhéré au parti conservateur il y a 5 ans pour pouvoir être actif dans son arrondissement du sud-ouest de Londres, où les Tories ont la majorité. Lui aussi est contre le Brexit, mais il a déjà voté. Il a coché le nom de Boris Johnson sur le bulletin de vote.
J'aurais espéré avoir des meilleurs candidats. Boris Johnson, on va pouvoir compter sur lui pour ne pas pouvoir compter sur lui. Donc je lui fais confiance pour essayer et pour peut-être montrer que c'est pas possible. Ça pourra peut-être un jour tourner assez rapidement pour no Brexit plutôt que no deal Brexit.
Fabien fait partie de ces Européens qui ont l'impression qu'on leur a coupé l'herbe sous le pied sans qu'ils aient eu leur mot à dire lors du référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne en 2016. Alors en tant que ressortissant de l'UE, il est content d'avoir cette fois voix au chapitre.
On n'a pas voté pour le Brexit, on en paye le prix particulièrement. Voilà, j'ai un levier. On n'a pas besoin d'être d'une nationalité pour faire partie d'un parti. Je suis résident, ça fait même pas partie, je pense, des conditions. Simplement, ils veulent qu'on ait été membre depuis un certain temps. Donc on connaît bien le parti, on a participé, donc c'est totalement acceptable que je puisse voter. Je désigne un chef de parti, je désigne pas un Premier ministre.
Évidemment, Fabien sait très bien que, de fait, il élit un Premier ministre. Il compte demander prochainement la nationalité, à temps pour les élections générales qui seront anticipées, pense-t-il. En attendant, impossible de savoir combien de non-britanniques peuvent voter dans ce scrutin interne. On ne sait même pas précisément combien il y a de membres. Mais beaucoup de sujets de Sa Majesté se plaignent du pouvoir que va exercer ce petit nombre, alors que 99% des Britanniques ne seront pas consultés.
London. Greatest city in the world. Well, used to be. Now it's a right mess.
Des Britanniques qui protestent, d'autant plus que le futur Premier ministre devrait gérer le Brexit. Et ce n'est pas le prochain jeu vidéo d'Ubisoft qui devrait les calmer. Avec Watch Dogs Legion, le créateur français imagine une vision cauchemardesque d'un Londres post-Brexit en 2020, avec dictature, violence et néo-nazis. On retrouve Marie Billon.
Le Brexit a tué la démocratie. L'Angleterre est désormais un état policier dans lequel les citoyens sont constamment fouillés, épiés, contrôlés par des militaires ou par des drones. Le but du jeu vidéo est donc d'organiser la résistance de l'intérieur. Le joueur est un recruteur.
What's my favorite operative up to this evening? And no, I never say that to the others.
Scout and talent, Bagley. So gob shut, eyes peeled, yeah?
I have no eyes, and if I did, I wouldn't peel them.
Pas besoin de choisir un personnage. En début de partie, les créateurs ont prévu le décès fréquent de ces volontaires cybernétiques. Le joueur peut donc endosser plusieurs peaux, passer de l'ex-espion du MI5, les services secrets, à la geek branchée ou même à la mémé frustrée de ne plus pouvoir nourrir les pigeons en paix.
Lovely evening, isn't it?
I used to feed the birds here. Now they're all bloody machines.
Get used to it. In the long march of progress, everything dies eventually.
Eventually, even you, Bagley, I'm sure.
Le personnage dialogue avec un agent par transmission de pensée, un guide qui l'aide dans sa quête et fait régulièrement de l'humour ou se moque de lui.
Does the rolling help?
Ça aide de se rouler par terre, demande la petite voix, alors que le héros tente d'esquiver les balles. Dans l'Angleterre post-Brexit, l'immigration n'est plus un souci. Enfin, plus précisément, ce n'est plus le même problème. C'est bien simple, plus aucun étranger ne veut venir vivre ici. En revanche, les Britanniques fuient par milliers. Si bien que l'Union européenne a créé un centre de traitement des migrants pour ralentir le flux vers le continent, mais la pression est telle que le système s'effondre. La seule solution est donc de renverser le régime policier. Évidemment, ce scénario catastrophe, alors même que le Brexit n'est pas encore réglé, pose question. Plusieurs médias britanniques se demandent quand même pourquoi une entreprise française se permet de fourrer son nez dans les affaires nationales en faisant du catastrophisme d'une telle ampleur.
Welcome to the resistance.
Et pour les gamers et les autres, sachez que le jeu sera disponible en mars prochain. Des briquettes de tourbe qu'on brûle dans sa cheminée ou dans les pubs en hiver, du whisky fumé à la tourbe. L'Irlande raffolée il y a peu de ces plantes d'eau qui poussent dans les tourbières du centre de l'île. Mais la tradition s'est révélée dévastatrice pour l'environnement. La société d'État Bornemona, qui exploitait les tourbières pour les centrales électriques, a décidé de se reconvertir aux énergies propres. Frédéric Lebel s'est rendu près d'Eden Derry, à 1h30 à l'ouest de Dublin.
La centrale d'Eden Derry est en maintenance. Pendant des décennies, elle a brûlé uniquement la tourbe des environs. Elle entame aujourd'hui un tournant écologique et fonctionne avec 48% de biomasse. Une reconversion à marche forcée, pilotée par la société Bornemona. À quelques kilomètres de là, Pat Salmon, chargé de communication de la compagnie, nous a donné rendez-vous dans le champ d'éoliennes de Mount Lucas, une autre initiative renouvelable.
On cherche un bouquet énergétique équilibré. Ça veut dire à peu près 13 champs d'éoliennes, comme celui-ci, avec 29 turbines qui produisent 84 mégawatts. Mais on cherche aussi à développer l'énergie solaire, oui, en Irlande. Vos auditeurs vont rire, mais oui, c'est une technologie qui marche et on a des projets en développement. Et puis il y a aussi la biomasse, ce qui veut dire remplacer la tourbe qui est brûlée dans nos centrales par de la biomasse produite en Irlande, ce qui assurera une source d'énergie régulière sur le réseau.
Nous sommes aux portes des Midlands, ce centre marécageux de l'Irlande, battu par les vents, recouvert de tourbières, des végétaux qui poussent dans l'eau, mais ne se décomposent pas. Dans une île sans ressources, sans bois, sans charbon, sans pétrole, la tourbe a longtemps représenté l'unique source d'énergie.
Bornemona a été créé dans les années 30 pour procurer une indépendance énergétique à l'Irlande. Ça faisait suite à tout notre combat politique des années 20 pour une Irlande indépendante. On avait vraiment besoin de notre propre approvisionnement en électricité. Donc ça, c'était notre première mission en tant que société publique. La deuxième, c'était de créer de l'emploi, de soutenir l'économie des Midlands.
Aujourd'hui, les tourbières, exploitées jusqu'à plus soif, ressemblent à des déserts noirs, loin, très loin de leur aspect d'origine.
Le paysage a été complètement bouleversé. On ne pourra jamais revenir au paysage des années 30. On est plutôt dans une démarche où l'on se demande comment la nature aujourd'hui peut se développer dans cet environnement, comment l'encourager, et ça, c'est la réhabilitation.
À un kilomètre de là, on récolte encore la tourbe. L'exploitation va être réduite de moitié dans les prochaines années et s'arrêter complètement d'ici 2030. Comme dans les régions minières, ce sont des wagons qui transportent le combustible. Remettre du vert sur ces terrains, c'est donc une gageure auquel s'emploie l'écologiste Mark McCurry.
Autour de nous, vous pouvez vraiment voir toute la biodiversité, toutes ces plantes, tous ces arbres. Et si on fait un saut en arrière, en l'an 2000, ici c'était une terre rase, il n'y avait plus aucun végétaux. En fait, tout ce qu'on essaie de faire au cours de cette réhabilitation, c'est d'encourager le processus de recolonisation par toutes ces espèces qui se plaisent dans ce type d'environnement.
Réhabiliter les tourbières, c'est inverser tout le processus de drainage du siècle passé et ramener l'eau en quantité suffisante. Alors seulement des végétaux, aussi curieux que la mousse sphaigne, pourront faire leur retour.
La mousse sphaigne est vraiment une mousse très spéciale. C'est un véritable écosystème. Probablement la plante incontournable des tourbières. Vous avez vu toute l'eau qui sort quand je presse ?
À une centaine de kilomètres de là, à Dublin, la scientifique de University College, Florence Renaud-Wilson, a consacré une thèse à la préservation des tourbières, des végétaux d'exception, vieux de 10 000 ans, qui agissent comme de véritables puits de carbone.
Dès que vous enlevez la surface d'une tourbière, sa végétation, dès que vous drainez, vous voyez l'eau qui coule. L'eau coule, elle est marron, elle est même noire dans certains endroits. Qu'est-ce que c'est ? C'est le carbone qui part. Alors ça pollue les eaux. Ensuite, quand vous brûlez la tourbe, il y a des particules. Donc ça pollue l'air. Et puis, vous avez perdu quelque chose d'important, ce qui est la biodiversité, c'est-à-dire les végétaux, les plantes qui vivent sur ces tourbières qui ont été détruites, ne se trouvent nulle part ailleurs. Elles ont évolué sur ces tourbières. Et du coup, elles disparaissent. Et on a déjà perdu plusieurs espèces comme ça en Irlande.
Voilà 20 ans que les spécialistes alertent sur la nécessité de préserver les tourbières. Elles sont loin d'être sauvées. Aujourd'hui, le danger vient de l'horticulture mondiale. En Chine ou en Afrique du Sud, on achète la tourbe irlandaise, un substrat parfait pour toutes les cultures en pot.
L'Islande, sa verdure, ses forêts, alors ça c'était avant le débarquement au 9e et 10e siècle des Vikings qui ont tout rasé. Aujourd'hui, les forêts représentent à peine 1% du territoire. Alors au nom de la biodiversité et du climat, l'Islande reboise à marche forcée. Reportage Jérémy Richard.
Hafnarfjallur est une terre de 6000 hectares de sable noir et de pierres volcaniques au sud-ouest de l'Islande. Au cœur de ce vaste paysage lunaire pourtant hostile à toute végétation, le service forestier islandais a reçu carte blanche de la ville voisine, Thorlákshöfn, et de l'État pour reboiser le terrain. Reid Hoskarsson est responsable de stratégie au sein de l'agence publique depuis 2017.
En basse altitude, c'est l'un des pires exemples d'érosion du sol en Islande. Ici, nous prévoyons de reboiser le terrain pour stabiliser le sol et protéger la ville voisine des tempêtes de sable.
Armé d'un petit putki rouge, un outil de plantation d'arbres originaire de Finlande en forme de tube équipé d'une poignée, Reid Hoskarsson plante des pins et des épicéas qui l'espace de deux grandes enjambées à chaque fois.
Nous plantons dans ces conditions extrêmes parce que nous savons que les arbres peuvent survivre ici. L'atmosphère est plutôt chaude et les conditions actuelles ne disent rien de ce que sera cette zone dans le futur.
Car l'Islande est considérée comme le pays le moins boisé d'Europe. Les forêts représentent moins de 1% du territoire, pourtant recouvert de bouleaux touffus à plus d'un quart avant sa colonisation par les Vikings à la fin du 9e siècle. Aðalsteinn Sigurgeirsson, directeur adjoint du service forestier islandais, raconte ce qu'il s'est passé.
Mes ancêtres sont arrivés dans un pays relativement sauvage et préservé, rempli de bouleaux touffus. Mais ils avaient besoin de terre pour l'agriculture. C'est la même histoire partout dans le monde. Et c'est ainsi que les forêts ont été rasées et les terres déboisées en l'espace d'un siècle après la colonisation. Et puis après, bien sûr, les vaches, les moutons, les chèvres et les cochons apportés ont achevé le travail pendant plus d'un millénaire.
Ce pâturage, combiné au climat islandais rigoureux et à l'activité volcanique qui expose périodiquement le sol aux cendres, à la lave et au gaz, ont entraîné une sévère érosion de la terre. 97% des forêts d'origine ont aujourd'hui disparu, mais depuis les années 50 et surtout 90, le paysage de l'île volcanique retrouve un peu de sa verdeur originelle grâce à un ambitieux plan de reboisement. Depuis 2015, entre 3 et 4 millions d'arbres sont plantés, soit l'équivalent d'environ 1000 hectares. Dérisoire, néanmoins, comparé aux 6 à 7 millions d'hectares plantés, par exemple, en Chine, sur la même période. Des dizaines de pépinières produisent à travers tout le pays, comme celle de Kvistar, à une centaine de kilomètres de Reykjavik. Hólmfríður Geirsdóttir est horticultrice et propriétaire des serres.
À l'origine, ils viennent d'Alaska, mais nous avons maintenant des arbres de 30, 40 ou 50 ans qui donnent des graines. Nous les collectons et nous les utilisons pour la production de plants.
Pendant 3 mois, les arbres grandissent à l'abri, à 21 degrés, dans la serre chauffée par la géothermie, abondante en Islande. Les pins et les peupliers sont des espèces exogènes et Aðalsteinn Sigurgeirsson explique pourquoi elles ont été importées.
En Islande, on n'a qu'une seule sorte d'arbre, le bouleau pubescent. Ce n'est pas une espèce très productive, surtout si l'on veut atteindre des objectifs de capture rapide du carbone ou pour la production de bois. Nous avons donc besoin de plus de variétés.
L'importation de ces conifères a même permis l'apparition d'une nouvelle biodiversité avec la colonisation récente d'oiseaux comme le hibou grand-duc ou la bécasse des bois. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du gouvernement islandais qui a fait de l'afforestation l'une de ses priorités dans son nouveau plan d'action pour le climat, publié en septembre dernier. Le ministre de l'Environnement, Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Nous insistons particulièrement sur la prise en compte non seulement du climat, mais aussi de la biodiversité en restaurant la fertilité de la terre, la structure et le fonctionnement de ce qui était auparavant un écosystème sain.
Ces actions n'auront cependant pas atteint leur plein potentiel en 2030, date à laquelle l'Islande s'est engagée à réduire de 40% ses émissions nettes de gaz à effet de serre dans le cadre de la COP21. L'équivalent d'environ 150 millions d'euros sera consacré spécialement au boisement du pays ces 4 prochaines années. Swimming, walk, breathe, sleep, care, eat well, nap,
read, talk, sometimes, do nothing. Les vacances des Européens, c'est le moment d'en parler. Le marché du tourisme retrouve des couleurs. Par rapport à 2014, le redressement est spectaculaire et les Français restent parmi les plus grands amateurs de vacances d'été. Le baromètre Ipsos Europe Assistance a décrypté les habitudes estivales des vacanciers d'une dizaine de pays européens. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors, les Européens sont-ils nombreux à partir en vacances cet été ?
D'après le baromètre annuel Ipsos Europe Assistance, 63% des Européens en moyenne ont déclaré en avril dernier vouloir partir cet été. Un gros progrès par rapport aux 54% d'il y a 5 ans. Il faut toutefois noter qu'en raison de la multiplication des congés courts ou bien des voyages lointains tout au long de l'année, la tendance lourde des vacances d'été est plutôt en recul depuis 10 ans.
Et les Français sont-ils toujours les plus promptes à partir cet été ?
Oui, sans conteste. Depuis le début de la décennie, ils se partagent avec les Autrichiens la première place du podium.
Alors qu'en est-il du budget vacances ?
L'incertitude à l'égard de l'avenir, ajoutée à l'effet de la dépréciation de la livre, rejette les Britanniques au bas de l'échelle, alors qu'ils étaient il y a quelques années parmi les plus dépensiers. Et avec un peu plus de 1800 euros de budget vacances, ils sont à peine au-dessus des Italiens et des Espagnols. Et assez loin des budgets des Allemands, des Autrichiens et surtout des Suisses, de 2005 à 2800 euros. Quant aux Français, ils restent dans une position médiane avec 2200 euros, un budget assez constant depuis quelques années.
Alors Daniel, où vont les vacanciers quand ils voyagent en Europe ?
Deux destinations tiennent en Europe le haut du pavé. En premier lieu, l'Espagne, privilégiée par les Britanniques, les Français, les Allemands, les Italiens et, logiquement, les Portugais. Quant à l'Italie, à l'évidence pour des raisons de plus grande proximité, elle est le premier choix des Autrichiens et des Suisses, ainsi que des Polonais. La France, qui arrive souvent en deuxième position, n'est la première destination, mais de loin, à 32%, que pour les Belges et à égalité avec l'Italie pour 12% des Espagnols.
Enfin, on ne peut plus éluder cette question. Quels Européens se soucient le plus de l'écologie ?
Clairement, l'empreinte écologique du voyage n'est pas la première préoccupation des Européens, puisque ce facteur n'intervient qu'en cinquième rang dans le choix de la destination et ne détermine que 17% des personnes interrogées par Ipsos. Trois pays que l'on n'attendait pas forcément sur ce type de motivation se détachent. Il s'agit du Portugal, de l'Italie et de la Pologne, où près d'un quart des sondés disent se soucier de l'empreinte écologique de leur voyage.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. On vous souhaite aussi de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée.
À bientôt Catherine et bonnes vacances.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr et nous retrouver sur notre page Facebook.